Chapitre 25. Loup Larsen se chargea lui-même de la distribution de whisky et l'apparition des bouteilles déchaîna un indescriptible enthousiasme. Je n'avais jamais vu boire de l'alcool qu'à dose modérée, comme le font les habitués des clubs. Mais c'était à plein verre et gobelet, voire même par bouteille entière, que ces hommes descendaient le whisky. Chaque rasade était digne d'une orgie. Au poste d'arrière, les bouteilles succédaient aux bouteilles et d'immenses beuveries n'arrêtaient pas. Il en était de même à l'avant où j'opérais. Tout le monde s'enivrait joyeusement, y compris Ofti qui m'assistait. Seul, le gros Louis se contentait de tremper ses lèvres dans son verre pour faire comme les autres. Le vacarme était énorme. Avec des voix formidables, les matelots discutaient des péripéties de la journée, se disputaient sur tel ou tel détail, puis, devenus soudain sentimentaux, se réconciliaient avec leurs ennemis de tout à l'heure. Prisonniers et capteurs, vainqueurs et vaincus, hoquetaient en se serrant mutuellement dans leurs bras et se juraient les uns aux autres de solennels serments de respect et d'estime. Et tous, ils gémissaient sur leur misère passée et à venir sous la loi de fer du Loup Larsen. Ils le maudissaient en cœur et ne tarissaient pas sur sa brutalité. C'était un tableau étrange et effrayant. Le petit espace bordé de couchettes où tous ces hommes, ces demi-bêtes, devrais-je dire, étaient entassés, leurs ombres, qui dansaient sous la lumière confuse des lampes, s'allongeaient monstrueusement ou se raccourcissaient à chacune des secousses du navire. L'atmosphère épaissie par la fumée des pipes était également imprégnée de l'odeur de tous ces corps et de celle de l'iodoforme et dans laquelle s'estompaient les trognes enluminées. Près de moi, Ofti, tenant en main l'extrémité d'un pansement, regardait la scène de ses grands yeux noirs et veloutés, pareil à ceux d'un daim dont ils avaient la douceur. Et je n'ignorais pas pourtant quel démon sauvage embusqué dans sa poitrine se dissimulait sous cette apparence trompeuse. Et je remarquais aussi la bonne figure un peu poupine d'Harrison, toute congestionnée d'une fureur diabolique, pendant qu'il racontait aux nouveaux venus ce qu'était ce bateau d'enfer et hurlait ses injures à l'adresse de Loup Larsen. Loup Larsen, c'était toujours à lui qu'en revenaient les conversations. Loup Larsen, bourreau d'hommes, circé mal, dont ses matelots étaient les pourceaux, brutes martyrisées qui rampaient devant lui et ne se révoltaient que hors de sa présence parce qu'elles étaient ivres et qu'il ne pouvait les entendre. Et moi aussi, n'étais-je pas du nombre de ces pourceaux? Je grinçais des dents à cette pensée, et un tremblement me saisit, si violent que le matelot que je soignais en frémit sous ma main, et Ofti me regarda curieusement. De toute manière, je romprais le charme diabolique. C'était maintenant décidé. À travers tous les obstacles, l'amour qui était né en moi me soulèverait sur ses ailes. Je remontai sur le pont où le brouillard qui recouvrait tout d'un voile fantomatique tourbillonnait dans la nuit. Nous naviguions au travers, sans feu de position. L'air était doux et pur, avec une faible brise. Après avoir été pansés dans leur lit, les deux chasseurs blessés, je me dirigeai vers le carré où le dîner était servi. Loup Larsen et Maud m'attendaient. Alors que tout son navire s'enivrait, Loup Larsen demeurait sobre. Sa victoire sur son frère l'avait mis de bonne humeur. Il avait engagé avec Maud Brewster une discussion animée sur la tentation et sur le plus ou moins de mérite qu'a l'homme d'y résister. Lorsque nous avons le choix entre le bien et le mal, affirmait Maud, c'était notre âme qui décidait et faisait pencher la balance du bon ou du mauvais côté. Loup Larsen rétorquait que la force du désir seule entrait en ligne. Nous résistions si le désir était médiocre, nous succombions s'il était intense. La discussion à laquelle je pris discrètement part continua quelque temps encore. Loup Larsen était plein de faconde et ne tarissait pas. Je ne l'avais jamais vu si volubile. Il amena la conversation sur l'amour et exposa avec flamme son point de vue, qui était comme de coutume tout matérialiste. Il glorifiait l'essence et Maud le cœur qui les domine. Maud, elle aussi, s'exaltait intensément, et j'observais son visage qui, peu coloré d'ordinaire, se teignait d'un vif incarnat. Elle soutenait brillamment cette joute oratoire avec des reparties spirituelles auxquelles Loup Larsen paraissait prendre le plus grand plaisir. Toute sa sombre mélancolie semblait s'être dissipée. et tandis que je me perdais dans la contemplation d'une mèche folle qui retombait sur le front de la jeune femme, Lou Larsen, ayant pris un volume de Swinburne, lut tout haut Sévère Liseut à Tintagel. Je suis sainte entre toutes mes sœurs, et si mon amour est un crime, ce crime est sublime. » Il venait de terminer les derniers vers lorsque le gros Louis passa sa tête dans l'escalier et chuchota. « Capitaine, faudrait peut-être faire gaffe. Le brouillard commence à se lever et je viens d'apercevoir dans la nuit les feux d'un vapeur. » Lou Larsen sauta sur le pont où Maud et moi le rejoignîmes. Il commença par tirer le toit à coulisses du poste d'arrière sur la clameur des ivrognes et courut ensuite au poste d'avant dont il ferma l'écoutille. En effet, le brouillard s'élevait dans le ciel, on ne voyait plus aucune étoile, la nuit était noire comme de l'encre. Juste devant nous, je vis luire un feu rouge et un feu blanc qui venaient dans notre direction et j'entendis la trépidation d'une machine à vapeur. C'était sans nul doute le Macédonia. Il n'y a pas de projecteur, heureusement pour nous, murmura Lou Larsen. Comme le navire de Larsen Lamor se rapprochait rapidement, je demandai à Lou Larsen : qu'arriverait-il si je criais ?
Je serais perdu, répondit-il. Mais avez-vous réfléchi à ce qui vous attendrait ?
Avant même que j'aie eu le temps de m'en informer, il m'avait saisi à la gorge avec sa poigne de gorille et d'une légère pression de ses muscles, bien peu de choses en réalité, il me fit comprendre ce que serait la torsion réelle sous laquelle il me briserait le cou. Puis il me relâcha.
« Et si c'était moi qui criais ?»
interrogea Maud. « Je vous aime trop pour vous faire du mal, » répondit Lou Larsen très doucement, avec dans sa voix une caresse amoureuse qui me fit frémir. « Mais vous ne crierez pas, car de toute façon, c'est à M. Van Weyden que je tordrai le cou. »« S'il ne tient qu'à ça, intervins-je, je l'autorise à appeler. » »«
J'ai peine à croire que Miss Brewster se résigne à sacrifier l'imminent critique de la littérature américaine, »
ricana Lou Larsen. Nous nous tûmes tous trois. Les feux rouges et blancs passèrent, et quand ils eurent disparu, nous regagnâmes le carré pour continuer notre dîner. Lou Larsen ramena la conversation sur l'amour et sur ses poètes, et Maud nous récita, avec une perfection admirable, l'Impenitentia Ultima de Dawson. Ce n'était pas elle, pendant ce temps, que j'observais, mais Lou Larsen. Il était complètement hors de lui et enveloppait Maud d'un regard fasciné. D'un mouvement inconscient, il remuait les lèvres à mesure que la jeune femme récitait son poème. Il l'interrompit quand elle en arriva à ses vers. « Quand se couchera le soleil, ses beaux yeux me seront la clarté qui console. Sa voix bercera mon sommeil, sa voix où chante une viole. »
Il y a aussi des sons de viol dans votre voix, dit-il brusquement.
Et ses prunelles bleues se mirent à étinceler de leur éclat d'or. Je haletais et la jalousie me mordit le cœur. Mais apparemment, Maud n'avait pas entendu le compliment. Elle débita impassible la dernière strophe et détourna la conversation vers des sujets moins dangereux. Le dîner était terminé et personne n'était venu desservir la table. Le remplacement de Mugridge s'en était évidemment allé rejoindre ses camarades au poste d'avant et boire avec eux. Je m'assis dans un coin en une demi-torpeur, écoutant le tumulte du poste d'arrière qui me parvenait à travers la cloison, tandis que Lou Larsen, de plus en plus excité, se lançait dans une apologie de révolte contre l'être suprême en prenant comme thème le Lucifer de Milton.
Sa cause était une cause perdue, expliquait-il. Mais il n'a pas eu peur de l'exposer aux foudres de Dieu. Précipité dans l'enfer, il a entraîné avec lui le tiers des anges. Puis, il a incité l'homme à se révolter à son tour contre le Créateur et à gagner à son royaume maudit les trois quarts des futures générations. Pourquoi a-t-il été chassé du ciel, où il aurait pu à peine en dessous du trône de Dieu rester heureux ? Il s'est révolté parce qu'il ne voulait pas de supérieur au-dessus de lui, parce qu'il était un esprit libre, conscient de sa valeur, il refusait d'avoir un maître. Mais Dieu, dont il était l'égal en noblesse et en bravoure, s'était emparé du tonnerre et voulait le dominer.
Il a préféré une servilité dorée, une éternité de souffrance. En enfer, il serait le premier. Mettons, dit Maud Brewster, que Lucifer a été le premier anarchiste. Elle se leva pour se retirer. Lou Larsen se leva aussi, et s'interposant entre elle et l'escalier, il poursuivit. L'anarchie a du bon. Écoutez ce que dit Lucifer. Ici, du moins, je régnerai en paix, loin du Tout-Puissant que je hais. L'enfer m'est moins rude que le ciel et la servitude. La voix puissante et sonore de Lou Larsen résonnait comme un défi dans l'étroite pièce où il redressait la tête haute et dominatrice avec son visage bronzé. Il dardait vers Maud Brewster, toujours devant lui, ses yeux dorés à la fois mâles et doux et qui lançaient des éclairs. Dans les yeux de Maud, je vis reparaître l'indicible terreur. « Vous êtes Lucifer !» et s'est-elle échappée. Et passant prestement derrière Lou Larsen, elle atteignit l'escalier et disparut. Lou Larsen demeura sur place pendant une ou deux minutes, comme perdu dans ses pensées. Au bout d'un moment, son attention se reporta sur moi. « Je vais aller relever lui à la barre, » me dit-il d'une voix brève, « et je reviendrai vous chercher pour que vous preniez ma place à minuit. Jusque-là, allez vous coucher et reposez-vous. » Il enfila une paire de moufles, coiffa sa casquette, et il s'apprêtait à monter sur le pont quand, suivant son conseil, je gagnais ma couchette. Pour quelle raison mystérieuse je me couchais tout habillé, je ne saurais le dire. Pendant quelque temps encore, j'écoutais la clameur des chasseurs de phoques, tout en songeant avec délice au bel amour qui était né en moi. Puis, peu à peu, les chants et les cris s'évanouirent, mes yeux se fermèrent et ma conscience sombra, dans cette demi-mort qu'est le sommeil. J'ignore qu'une intuition secrète m'éveilla. Toujours est-il qu'après un laps de temps que je ne saurais évaluer, je me trouvais debout, hors de ma couchette, l'âme vibrante à l'approche d'un danger inconnu, comme si l'appel d'une trompette l'avait fait frissonner. Poussé par la même force secrète, j'allais vers la cabine occupée par Miss Brewster et en poussai la porte qui s'ouvrit d'elle-même. La lampe était baissée, et à sa faible lueur, devant moi, je vis Maud, ma bien-aimée, qui se débattait de toutes ses forces sous l'étreinte écrasante de Lou Larsen. Lutte inutile et sans espoir. Je voyais son délicat visage pressé contre la poitrine de son assaillant qu'elle essayait vainement de repousser. Comme Lou Larsen relevait sa tête qui était baissée vers la jeune femme, je le frappai d'un coup de poing en pleine figure. Mais il ne sembla pas que le coup eût porté. Lou Larsen, tel un fauve, poussa un effroyable rugissement, et d'un léger revers de sa main, une simple caresse, il me rejeta en arrière comme une catapulte. J'allais m'écraser contre la porte de la cabine que j'avais refermée derrière moi, et le choc fut tel que les panneaux volèrent en éclats. Après m'être dégagé des débris de bois, je me remis sur pied tant bien que mal, sans m'occuper de la vive douleur que je ressentais. Je n'étais conscient que d'une rage folle qui me dominait. Et tandis que Maud s'était mise à crier éperdument, en me demandant du secours, je dégainai le poignard qui pendait à ma ceinture et me précipitai une seconde fois sur Lou Larsen. Mais soudain, un coup de théâtre se produisit, si imprévu et si étrange, que sur le point de frapper, je retins la lame d'acier déjà levée. Lou Larsen avait lâché la jeune femme, qui s'était vivement reculée et qui s'appuyait contre la cloison qu'elle avait derrière elle. Larsen chancelait et trébuchait. De la main gauche, il se tenait le front et se couvrait les yeux. De sa main droite, il tâtonnait autour de lui comme ébloui. Elle rencontra la plus proche cloison, et à ce contact, Lou Larsen, reprenant son équilibre, parut éprouvé comme un soulagement physique. En ce qui me concerne, je vis rouge de nouveau. Tout ce que j'avais souffert de cet homme, toutes les humiliations et toutes les brutalités endurées par moi et par les autres, du fait de ce monstre, dont l'existence était un défi à la création, me revinrent soudain à l'esprit comme un rayon de lumière dans les ténèbres. Je m'élançai sur lui comme un démon et mon poignard s'enfonça dans son épaule. Je sentis l'acier pénétrer dans la chair et glisser sur l'omoplate, et je compris que ce n'était là qu'une blessure toute superficielle. Alors je levai encore le bras et je m'apprêtai à l'atteindre en une partie plus vitale quand Maud s'écria. « Non, non, je vous en supplie !» Je baissai le bras pendant un court instant pour le relever bientôt et Lou Larsen serait certainement mort si Maud Brewster ne s'était pas mise entre nous. Ses bras m'entourèrent, sa chevelure frôla mon visage. Mon pouls se mit à battre à coups précipités sous la double émotion que je ressentais, car ma rage était loin de s'apaiser. Elle grandissait plutôt.
« Je vous en supplie !» répéta Maud. « Pour l'amour de moi !»«
Je le tuerai pour l'amour de moi-même » répondis-je.
Je tentai, sans lui faire de mal, de me libérer de son étreinte.
« Taisez-vous »
dit-elle. Elle posa légèrement ses doigts sur mes lèvres. Malgré mon état de fureur, je les aurais volontiers baisés, tellement le contact m'en était doux, si doux. Je reculai un peu et elle continua.
« Je vous en prie, je vous en supplie !»
Ses paroles me désarmèrent et je compris qu'elles me désarmeraient toujours. Je m'écartai davantage de Lou Larsen et remis le poignard dans sa gaine. Je regardai Lou Larsen. Il appuyait toujours sa main gauche sur son front pour se protéger les yeux. Il penchait la tête et son corps, comme celui d'un estropié, s'affaissait sur les hanches. Ses larges épaules se contractaient en se voûtant.
« Van Weyden !»
cria-t-il d'une voix rauque, avec une note d'effroi.
« Van Weyden, où êtes-vous ? »
Je regardai Maud. Elle ne disait rien, mais secouait la tête avec pitié.
« Ici !»
répondis-je en m'avançant vers lui.
« Qu'y a-t-il ? Aidez-moi à m'asseoir »
dit-il avec la même intonation rude et apeurée.
« Je suis malade, Hump, très malade !»
Il me saisit le bras dont il usa comme d'un soutien pour gagner une chaise où il s'affala. Sa tête bascula vers la table où il l'enfuit dans ses mains. Elle dodelinait en avant et en arrière et il était visible qu'il souffrait atrocement. Il y eut un instant où il la redressa à demi et je vis la sueur qui de la racine de ses cheveux perlait à grosses gouttes sur son front.
« Je suis malade, très malade !»
répétait-il sans cesse. Je posai la main sur son épaule et demandai « De quoi souffrez-vous ? Que puis-je faire pour vous ?» Il repoussa ma main d'un geste irrité, et pendant un long moment, je demeurai silencieux près de lui. Maud regardait, la crainte et l'horreur peintes sur son visage.
« Hump !»
dit-il enfin. « Le mieux est que je regagne ma couchette. Aidez-moi !» Ce sont ces terribles maux de tête qui sont revenus. Ils me font peur. J'ai l'impression par moments... Non. Je ne sais pas ce que je dis. Aidez-moi à me coucher. Je le reconduisis à son lit, et quand je l'eus couché, il s'enfuit de nouveau le visage dans ses mains. Alors que je me disposais à sortir, je l'entendis murmurer encore.
Je suis malade, très malade.
Maud, que je vins retrouver ensuite, m'interrogea des yeux. Je fis un signe évasif. À quoi correspondent ces maux de tête ? Je n'en sais rien. Il est réduit à une impuissance complète et s'effraie pour la première fois de sa vie. Le coup de couteau que je lui ai porté n'en est pas la cause, car la blessure n'est que superficielle. « C'est avant le coup, en effet, observa Maud, qu'il m'a lâché brusquement et s'est écarté de moi en titubant. Qu'allons-nous faire ?
Je vous le dirai bientôt. Veuillez m'attendre un instant. »
Je montai sur le pont et allai vers le gros louis qui était à la roue.
« Je prendrai la barre, lui dis-je. Va te coucher. »
Il obéit prestement et regagna le poste d'avant, où tout l'équipage dormait à présent ivre-mort. Resté seul sur le pont du fantôme, je ralentis sa marche en repliant autant de toile qu'il me fut possible. Puis je redescendis vers Lou Larsen, que je retrouvai toujours dans le même état, la tête ballante et le corps tordu par la souffrance.
« Vous n'avez besoin de rien ? »
demandai-je. Tout d'abord, il ne me répondit pas, et comme je réitérai ma question, il articula avec peine.
« Non, ça va. Laissez-moi jusqu'à demain matin. »
Je sortis en refermant la porte derrière moi et allai retrouver Maud Brewster. Avec un frisson de joie, je remarquai le port majestueux de sa tête. Dans ses yeux magnifiques brillait une lueur de sérénité. « Voulez-vous vous en remettre à moi pour un voyage qui peut être long et hasardeux ? » lui demandai-je.
Précisez,
répondit-elle. Pourtant, je voyais bien qu'elle avait compris ma pensée.
Je veux dire que fuir en canot, dans un canot ouvert et sans abri,
est notre seul espoir. Sinon, c'est le pire sort qui vous attend. Acceptez-vous ? » Elle fit un signe de tête approbatif et je poursuivis. « En ce cas, habillez-vous immédiatement, le plus chaudement possible, et faites un paquet de tous les objets que vous jugez utiles d'emporter avec vous. Hâtez-vous. » Muni d'une bougie, je m'introduisis dans le magasin du navire. Je fis ma base principalement sur les boîtes de conserve, et par la trappe, je passai aux mains tendues de Maud Brewster tout ce que j'avais mis de côté. Nous opérions vite et en silence. Je fis aussi provision de couvertures, de moufles, de cirés, de surrois et autres vêtements. C'était une entreprise très hasardeuse de nous confier dans une frêle embarcation à une mer dure et démontée. Il était impérieusement nécessaire que nous prenions toutes les précautions utiles afin de nous protéger contre l'humidité et le froid. Fiévreusement, nous portâmes sur le pont notre butin où nous l'y déposâmes. Si fiévreusement que Maud, dont la force était tout en air, se sentit soudain défaillir. Elle s'arrêta, commença par s'asseoir épuisée, puis elle se coucha sur le dos, les bras étendus, et perdit connaissance. Une de mes sœurs était sujette à ces évanouissements passagers, et je ne m'en effrayais pas outre mesure. Laissant opérer la nature, et persuadé que la jeune femme ne tarderait pas à reprendre ses esprits, je pénétrai une dernière fois dans la cabine de Lou Larsen, pour y prendre sa carabine et son fusil de chasse. Il ne me vit pas, bien qu'il eût les yeux grands ouverts, ou s'il me vit, il n'en laissa rien paraître. « Adieu, Lucifer !» murmurai-je, en m'éloignant de lui pour toujours. Je mis également la main sur deux caisses de munitions et sur les caisses à eau douce que je pris sur chacun des canaux du bord. Pendant ce temps, Maud était revenue à elle et nous procédâmes tous deux au chargement d'un des canots qui, tout paraît égréé, pendait à ses porte-manteaux. Pendant que nous nous livrions à cette opération, un des matelots monta sur le pont pour prendre un peu l'air, apparemment, et se rafraîchir les idées. Il se promena quelque temps, bâilla, s'étira les bras et se pencha sur la lisse en regardant la mer. Je m'étais accroupi dans le fond du canot et Maud s'était blottie derrière les caisses qui nous restaient à charger. Le matelot, dont la vue n'était pas plus nette que les idées, ne nous aperçut ni l'un ni l'autre et finalement s'en retourna comme il était venu. Quand tout fut prêt, Maud et moi fîmes jouer les palans et le canot s'abaissa petit à petit vers la surface de la mer. Après quoi, j'aidai la jeune femme à franchir la lisse et la descendue dans l'embarcation. Lorsque je sentis son corps si près du mien, je tressaillis tout entier, et c'est tout juste si un aveu d'amour ne s'échappa de mes lèvres. Je profitai du moment où une lame soulevait le canot et où les pieds de la jeune femme en touchaient le fond, puis lui lâchai les mains. Puis je détachai les crocs des palans et sautai vivement auprès d'elle. Jamais de ma vie je n'avais encore manié une rame. Ce fut au mieux que je mis en place les avirons et réussis à écarter le canot du fantôme. Je m'esclimai ensuite à hisser la voile et à l'orienter, et prenant en main le gouvernail, nous courûmes sous le vent. « Le Japon est là, droit devant nous !» annonçai-je à Maud. « Humphrey Van Weyden, vous êtes un homme brave !» me répondit-elle. « Non, mais il y a ici une femme qui est brave, c'est vous !» D'une même impulsion, nous tournâmes la tête pour jeter un ultime regard sur le fantôme. Sa coque sombre, qui roulait sur les lames, se levait et s'abaissait alternativement. Ses mâts se perdaient dans la nuit. La barre que j'avais immobilisée à l'aide d'une corde geignait chaque fois qu'une vague venait frapper le gouvernail. Puis le fantôme s'évanouit dans l'obscurité, tout bruit mourut, et nous nous retrouvâmes seuls, Maud et moi, sur l'immensité noire de la mer.